Bonjour à toutes et à tous. Des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Cette semaine, j'avais envie de vous faire plaisir en vous offrant non pas un, mais deux cadeaux. Pourquoi ? Parce que c'est l'anniversaire de Muffin Game. Et oui, nous fêtons les 1 an du podcast déjà. Ça passe si vite. Je n'en reviens toujours pas de cette année à parcourir les routes de la France, mais aussi de la Belgique pour aller à la rencontre de mes invités. Je pense à toutes ces muffins de Paris, de la Côte d'Azur, du Sud-Ouest, de Lyon, de Liège, de Bruxelles, que j'ai eu plaisir d'interroger pour comprendre le mindset de ces entrepreneuses, de ces artistes, de ces athlètes. J'ai beaucoup de gratitude pour ce que ce podcast offre quotidiennement et je vous remercie du fond du cœur d'être là. Merci à celles qui se sont abonnées, qui ont partagé leurs écoutes sur les réseaux, qui ont interagi avec nous. C'est un vrai bonheur de vous connaître et de savoir qui nous écoute. On est parti de zéro l'année dernière, sans aucune visibilité ni communauté. On a tout créé et en seulement 1 an, Muffin Game, c'est 46 épisodes, 37 invités, 50 000 écoutes. C'est peut-être rien aux yeux de certains, mais pour nous, c'est juste énorme. Donc, merci. Cette semaine, je reçois 2 invitées que vous connaissez puisqu'elles sont déjà venues sur le podcast. Elles font leur grand retour sur Muffin Game pour son anniversaire. Elles font partie des épisodes que vous avez préférés cette année. Ce ne sont pas les seules, mais il fallait choisir. J'ai donc le plaisir de recevoir Mariam Gaderi et Laura Sport pour une table ronde sur le thème de la santé mentale. La santé mentale étant une partie intégrante de la santé, ce sujet mérite d'être développé avec des coachs dont la confiance en soi et le bien-être avec son corps sont leur spécialité. La 2e surprise que je vous prépare depuis des mois et que je peux enfin vous dévoiler, c'est qu'à l'occasion de cet anniversaire, j'ouvre la chaîne YouTube. C'est officiel, vous allez pouvoir entendre mais aussi voir des épisodes exclusifs sur la chaîne. Et il y aura aussi d'autres types de contenus avec des masterclass et des vlogs. Je vous invite tout de suite à aller vous abonner, à liker et commenter les vidéos si ça vous plaît. Je vous ai mis le lien dans la description. À cette table ronde, on aborde ensemble différents sujets. D'abord, trouver sa propre définition de sa santé mentale. C'est très important de trouver ce qui est juste pour nous. Comment devenir sa priorité, instaurer les bonnes habitudes pour recharger son énergie, comment avoir le courage de s'écouter et définir ses limites, et ce qui peut parfois être le plus difficile, apprendre à dire non. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Mariam Gaderi et Laura Sport.
C'est vrai que c'est un acte de courage de s'écouter. Et de se dire, qu'est-ce qui est juste pour moi ?
Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade.
Tu sais, tu l'as cette petite voix qui te parle. Donc soit elle te dit, fais pas ça, c'est dangereux, on va te juger. Ou tu sais, ce truc de, ça va être bien, en vrai, tu vois que ça te plaît. Tu sais, et on est tous là, je suis pas sûre, ou il y a un tel qui m'a dit ça. Mais on l'a la réponse tous, au fond de nous.
C'est de créer des moments et des espaces où je peux me retrouver dans le silence, seule avec moi-même. Un coach américain qui parlait de ça, John Assaraf, qui disait que lui, il se mettait des alarmes sur son téléphone plusieurs fois dans la journée et ces alarmes, elles lui rappelaient « check in with yourself ». Reviens à toi-même, recentre-toi, recentre-toi.
Pour moi, dire non, c'était la décevoir et si je décevais, j'allais être détestée. Et alors là, si j'étais détestée, mais je n'en dormais pas la nuit, vraiment.
Bonjour les filles.
Coucou. Salut.
Bienvenue sur Muffin Game.
Merci, bienvenue à toi.
J'allais dire bienvenue à toi.
Pardon. Mais c'est génial, on ouvre en beauté, Mariam. Merci, tu nous fais ce cadeau.
On dirait que c'est chez moi, là. Non, mais attends, Mariam, calme-toi.
On a tellement mis du temps à installer ce setup. Voilà, on y a vraiment pris du soin. Ouais. En fait, on se sent chez nous.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Donc, si on se sent chez nous,
nos auditrices vont se sentir chez elles.
Exactement.
Donc c'est ça qui est bien.
C'est bon signe. Moi j'allais dire re-coucou pour varier un peu, mais bienvenue à toi aussi, ça fonctionne.
Voilà, on personnalise les bonjours, les voilà. Coucous, tout est parfait. Je suis absolument ravie de vous recevoir à ma table, à la table de Muffin Game. Est-ce qu'on serait pas en train d'ouvrir la chaîne YouTube ensemble?
Et si.
Bien
yes,
sûr que si.
Et si, félicitations. Trop bien.
Parce que quand même, on est là aujourd'hui pour fêter un anniversaire, les 1 an de Muffin Game. Donc, c'est aussi le cadeau qu'on voulait faire à nos auditrices. C'était un, de réunir l'un de leurs épisodes préférés. Vous faites partie des épisodes préférés de l'année écoulée. Donc, on a à la fois adoré vos sujets, adoré vos personnalités. Donc, ça me semblait normal d'ouvrir cette chaîne YouTube avec les épisodes préférés de nos auditrices. Merci beaucoup d'être là.
Merci à toi.
Grand plaisir.
On fait un deuxième cadeau, qui est quand même l'ouverture de cette chaîne YouTube à l'occasion des 1 an. On ouvre cette chaîne ensemble. Moi, je suis trop contente parce que j'ai mes cops autour de la table. Donc, c'est vraiment... voilà, comment... je me fais aussi ce cadeau et ce petit kiff. Vous savez comment je vous adore.
Donc... Oui, si on t'adore.
Merci. Love. Ouais, on peut faire des cœurs. Des cœurs, des cœurs. Ah, il y a beaucoup d'amour, là. Ah, ça fait du bien. Pour remettre un petit peu dans le contexte et justement ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, c'est que ben, vous avez déjà fait un passage sur Muffin Game. Avec toi, Mariam, nous avions parlé du pouvoir que nous avons sur notre vie, de l'alignement entre nos aspirations, nos désirs et la croissance de nos entreprises. On avait beaucoup parlé ensemble de confiance en soi, de lâcher prise. C'est aussi tes sujets de prédilection.
Ouais, totalement.
Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans mes notes que dans l'introduction de cet épisode-là, j'avais annoncé, et je pense que je me connais, c'est pour ça que j'avais fait ça, c'était pour m'engager, où j'avais dit, vous retrouverez les coulisses de ce podcast avec Mariam sur YouTube.
Donc ah oui, c'est vrai, je me rappelle.
J'avais oublié.
Oui, et on avait, enfin, t'avais filmé un peu ton arrivée à la maison.
C'est ça, c'est ça. J'avais croisé ta maman. Enfin, oui. C'était vraiment génial. Et c'était, je crois, la première fois qu'on se rencontrait.
Ouais, c'était voilà. La première fois.
Et donc, je me suis dit, tiens, j'avais oublié. C'est drôle, cette coïncidence, que du coup, ensemble, on ouvre cette chaîne YouTube. J'ai adoré l'histoire.
C'est vrai.
Avec toi, Mariam, c'était l'épisode 31. Qui était sorti le 11 octobre dernier et qui s'intitule « Choisis d'agir pour toi ». Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr les auditrices à venir l'écouter parce que c'est pépite. Mariam, pour moi, tu es la douceur incarnée.
Bah, merci beaucoup, tu es un amour.
La bienveillance et aussi beaucoup l'intelligence.
Merci,
c'est
vraiment.
Du un fond bonheur
de t'écouter.
Je te retourne
tous ces compliments à 1000%, vraiment. C'est comme ça que je te vois aussi.
Ben, je pense que si on est là ensemble aujourd'hui toutes les trois, c'est qu'il y a eu un vrai coup de cœur. Enfin, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé au-delà de juste échanger autour du podcast et que on adore notre façon de penser, on a la même vision de la vie. Alors aujourd'hui, vous connaissiez pas, je crois,
non,
aujourd'hui.
C'est la première fois.
Oui, mais très belle rencontre. Je suis ravie,
voilà.
Très belle. Moi ravie de partager cette table avec vous deux, vraiment.
Moi et j'étais pas inquiète sur le match, comment ça allait se passer. Donc, merci d'être là, Mariam.
Merci à toi.
Merci beaucoup. Avec toi, Laura, on avait fait un épisode, on en parlait encore tout à l'heure, qui avait beaucoup touché, qui nous avait touché, bien sûr, parce que c'était venu un petit peu toucher des... Enfin, un petit peu, on ne va pas réduire, beaucoup nos histoires personnelles. On avait fait un épisode sur les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, du rapport à notre poids, à la musculation, au sport, etc. C'était l'épisode 34. Qui était sorti le 15 novembre dernier, qui s'intitulait « Faire la paix avec son poids ». Donc pareil, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, ou le re-écouter, parce que vraiment pareil, c'est toujours du bonheur de te re-écouter. Donc merci d'être là aujourd'hui.
Merci à toi de m'accueillir. Je me sens honorée d'être aussi bien entourée là, vraiment.
Ouais.
On va passer un bon moment, ça va être chouette.
Ouais, j'adore. Alors aujourd'hui, je vous ai réunis parce qu'il y avait un sujet qui me tenait à cœur, oui, encore un. C'est le sujet de la santé mentale. Et on disait aussi tout à l'heure en off que c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Pour moi, la santé mentale, c'est une partie intégrante de la santé tout court. Donc, c'est quelque chose qui est primordial dans notre vie et qui est souvent sous-coté. C'est-à-dire qu'on se dit, ça ne va pas bien, va faire un petit peu des cours de sophrologie ou va voir un psy. Mais on sous-estime l'impact que ça a sur une vie entière.
Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi pour vous la santé mentale ? Qui commence ?
La santé mentale, je vais me lancer.
Vas-y, Mariam.
J'y vais. La santé mentale, pour moi, c'est notre capacité à nous sentir en harmonie et en paix à l'intérieur de nous. Je dirais que c'est un alignement émotionnel, psychologique. C'est un sentiment d'harmonie intérieure. Je le définirais comme ça, tu vois. A contrario de le sentiment d'être agité ou d'être en conflit avec soi d'une manière ou d'une autre, je pense que la santé mentale, c'est vraiment ce sentiment d'harmonie, de paix à l'intérieur de soi. Et bon, je dirais que la santé tout court, tu vois, c'est un alignement entre le corps et l'esprit. Et c'est une harmonie complète entre ces deux facettes de nous. Mais j'aurais tendance à utiliser les mots harmonie, alignement, paix, calme intérieur, tu vois, je le vois comme ça.
Plutôt qu'équilibre ?
Si, le mot équilibre aussi est très juste, tu vois, c'est un équilibre, c'est une harmonie, même si l'équilibre, finalement, je pense qu'on trouve chacun notre équilibre et notre harmonie, tu vois, je pense pas qu'il y ait une seule façon d'être équilibré, et de toute façon, pour chacun, la santé mentale, ça va se manifester de manière différente, mais ouais, c'est ce qui me vient en tête, tu vois, l'harmonie, l'équilibre, comme t'as dit, le bien-être, finalement, tu vois, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi.
C'est vrai que quand tu le décris, on ressent justement ce bien-être et cette paix intérieure. Mais je pense que dans la société dans laquelle on vit, en plus aujourd'hui on est à Paris par exemple, dans une ville où ça va vite, où le rythme il est effréné, où on est dans le tourbillon de la vie, comment t'arrives toi à nourrir, entretenir, garder cette paix et ce calme intérieur autour de toute cette, au milieu de toute cette agitation ?
Je pense, après moi je suis vraiment introvertie, hein. Je recharge beaucoup mes énergies en étant seule. Moi ce qui m'aide dans une ville comme Paris par exemple, où justement c'est très bruyant, il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de stress, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'agitation, ce qui m'aide c'est de créer des moments et des espaces où je peux me retrouver dans le silence, seule avec moi-même. Tu vois, c'est pour moi trouver des moments... créer plutôt ces moments, parce qu'on est tous hyper occupés, on a tous un rythme un peu effréné, je pense, à certains niveaux. Donc c'est créer des moments et des espaces où tu peux vraiment créer un silence, où tu te retrouves avec toi-même, où tu peux te reconnecter à toi, te reconnecter à tes émotions, à ton corps, et vraiment créer cette relation avec soi, parce que si on ne prend pas le temps de créer ces espaces-là pour nous-mêmes, bah en fait, on vit en pilotage automatique et juste, on se laisse envahir par le stress extérieur, toutes les informations de l'extérieur. Et ça peut, c'est à ce moment-là, je trouve, que notre santé mentale, elle peut être en péril.
Ouais, je vois.
Donc pour moi, c'est super important de créer ces moments-là.
Est-ce que, justement, ces moments de solitude, est-ce que c'est plutôt simple à les mettre en place, parce que entre le travail, les transports, etc., est-ce que ces moments de solitude, il peut être aussi ressourçant en seulement quelques minutes, sans passer 2 heures, 3 heures ? Je pose cette question parce que moi, j'ai souvent les femmes avant les immersions qui me disent, mais prendre du temps pour moi dans la journée, mais même un quart d'heure, j'y arrive pas, donc 1 heure, 2 heures, c'est pas possible pour elles. Comment toi, tu fais pour justement faire en sorte que ces moments de solitude soit suffisamment riche en pour retrouver la ressource, je sais pas comment expliquer. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr. Moi, il y a quelque chose que j'essaye de faire systématiquement. J'y arrive pas toujours. Je mentirais si je venais vous dire non, mais j'y arrive tous les jours. C'est pas un problème.
C'est pas parfait.
Oui, c'est pas parfait. Mais quelque chose que sur lequel je m'engage et que j'essaye de tenir au maximum, c'est le matin et le soir. Et pendant la journée, créer des petits moments comme ça où je me retrouve le matin quand je me réveille, j'essaye autant que je peux de mettre de côté mon téléphone, tu vois, de prendre mon café, d'être présente avec moi-même, de faire un peu de cohérence cardiaque, tu vois, ça va me durer quelques minutes. Mais ça me permet, même par la respiration, d'être présente et de créer cet espace et ce silence. Et je pense pas qu'on ait besoin forcément de passer... Je pense que c'est très utile de passer une heure ou deux avec soi-même. Mais je pense pas que ce soit absolument nécessaire et indispensable pour créer un espace et pour qu'on puisse créer cette connexion avec soi. Je pense que tu vois, le matin, pendant la journée, le soir, juste créer des petits moments de... C'était un coach américain qui parlait de ça, John Assaraf, qui disait que lui, il se mettait des alarmes sur son téléphone plusieurs fois dans la journée. Et ces alarmes, elles lui rappelaient « check in with yourself ». Reviens à toi-même, recentre-toi, recentre-toi. Et donc, c'était des alarmes qui duraient quoi, une minute. Mais juste pendant une minute, il interrompt le flot de pensée, il revient à lui-même.
C'est un rappel, quoi.
C'est un rappel. Reviens. C'est ça. Et je pense pas que ça doit durer forcément une heure, tu vois. Ça peut durer une minute, quelques minutes, mais au moins... Tu te rappelles constamment d'interrompre ton mental, de revenir à toi-même, être présent. Et ça, c'est efficace. Donc, je pense qu'on est tous capables de le faire. C'est juste qu'on ne le priorise pas, en général.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que tu disais tout à l'heure, il y en avait qui te disaient qu'ils ne trouvaient pas ça simple, même d'avoir un quart d'heure pour soi. Mais je pense qu'en fait, on croit que prendre soin de soi, c'est aller au spa pendant une heure, sortir avec ses amis, faire l'effort de faire une soirée. Alors que comme tu dis, ça peut prendre une minute où t'es avec toi-même, t'as pas besoin d'artifices, d'objets, de musique, de méditation. Comme tu dis, revenir au cœur, un peu moins dans la tête, prendre le temps de le faire pendant... On a tous une minute dans la journée. Mais à mon avis, je pense qu'on sacralise un peu le truc, on le met sur un piédestal, parce qu'il y a quand même beaucoup le développement personnel qui s'est mis là-dedans, et peut-être que ça a un peu complexifié les choses, je sais pas. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est simple, en fait. Il suffit de se dire que c'est pas si compliqué de le faire en utilisant des outils simples qu'on a à portée de main, quoi.
Ouais, en fait, c'est des petites habitudes, des petits gestes. Tu vois, moi, ça me parle beaucoup de... Quand tu te lèves le matin, c'est avant de regarder la vie des autres, c'est te concentrer sur
la tienne.
De qu'est-ce que tu as envie de penser aujourd'hui. Tu vois, c'est un peu... Enfin, voilà, on se lave les dents tous les matins, c'est une hygiène de vie. C'est pareil pour ses pensées. Et je pense que commencer sa journée en étant focalisé sur soi, ça aussi, c'est prendre du temps pour soi. Au lieu de se jeter sur son téléphone et aller regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux pour commencer sa journée, je trouve que ça permet aussi d'intégrer un espace de présence avec soi-même, au moins les premières minutes du lever.
Tout à fait.
Je trouve ça hyper profond, en fait, comme geste de bon matin, et c'est accessible à tous, quoi.
Mais de toute façon, c'est prouvé scientifiquement qu'utiliser son téléphone dans les premières secondes après le réveil, ça augmente l'anxiété. De manière générale, tu as des angoisses qui sont plus présentes. Comme tu le dis, tu peux te comparer à la vie des autres. Du coup, plus facilement, tu vas te dévaloriser sur ce que toi, tu es capable de faire dans la journée. C'est pas le meilleur ancrage que tu puisses avoir pour commencer. Clair. Mais tu sais, il y a ce truc un peu, on le sait tous que c'est pas bien.
Mais
on continue de le faire et on n'arrive pas. Donc, je suis d'accord, je ne sais pas laquelle de vous deux disait, c'est une question aussi de volonté, de vouloir le faire. Est-ce que vraiment ça a de l'importance pour moi et comment je le priorise? Parce que moi, je l'ai toujours entendu, je l'ai toujours su, mais le premier truc que je fais le matin, on va se dire la vérité, c'est que je regarde mon téléphone. Non, mais c'est vrai.
C'est bien, confidence pour confidence.
Oui, non mais faut dire la vérité.
On a dit juste avant que ce n'était pas parfait. Donc
Il faut dire la vérité. Moi, c'est vrai que je le sais, que en plus, j'ai le terrain, tu vois, anxieux. Donc je sais que ça me ferait du bien. Mais je sais pas, il y a ce truc qui fait que j'ai l'impression que si je regarde pas mon téléphone le matin, je vais fear of missing out, j'ai l'impression que je vais rater un truc.
On est d'accord.
Je suis cliente de ça, moi la première. On est tous, je pense, à moindre mesure impactés par, par ce truc-là.
Mais tu vois, je pense à Marianne Diamant qui est neurobiologique et qui a découvert en fait la plasticité cérébrale et qui disait que justement, il y avait une vraie imbrication entre... notre milieu social et notre biologie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'un côté nos émotions, donc intrinsèques, et d'un autre côté, il y a le contexte extérieur qui influence notre état intérieur, qu'on sous-estime beaucoup. Et dans ce contexte extérieur, il se trouve plusieurs responsabilités, une responsabilité individuelle, j'ai le pouvoir sur ma vie, etc. Et on oublie beaucoup les responsabilités systémiques qui sont le monde politique dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, la culture dans laquelle on est ancré, et qui, on le voit bien dans les Newt, par exemple. Je pense au Newt le plus célèbre dans l'aéroport de, je crois que c'est l'aéroport de Stockholm, qui est où ils ont fait en fait une étude. Ils ont constaté qu'en fait, dans les toilettes de cet aéroport, ils étaient tout le temps sales. Et ils se sont dit, en fait, ça ne veut pas dire que les personnes ne savent pas aller aux toilettes. Ça veut juste dire qu'ils sont influencés par leur environnement extérieur. Et du coup, on va faire une étude, on va instaurer au milieu des urinoirs, c'est véridique, hein, vraiment, c'est, j'adore ce nudge, on va mettre au milieu des urinoirs des petits autocollants avec des fausses mouches et on va voir les résultats. Mmh. Et en fait, en à peine une semaine, les toilettes de cet aéroport ont été 30% plus propres. Incroyable. Et c'est là où tu te dis, okay, en fait, on a tous cette capacité cérébrale, en fait, de maîtriser ces choses-là, sauf qu'on se rend bien compte que les responsabilités systémiques, donc l'environnement, mmh, impactent énormément notre biologie intérieure, notre état intérieur. Et là, on parle du téléphone au réveil, mais c'est clairement ça. Tu instaures, oui, une habitude, quelque chose d'un contexte extérieur qui, du coup, va déterminer ton état intérieur. Et c'est un truc qui est accessible, tu tends la main. Et donc, je ne sais plus pourquoi on disait ça, on est allé très très loin. Mais moi, j'aimerais avoir ton avis, Laura, sur c'est quoi pour toi la santé mentale ?
Et eh bien, toi, c'était vachement dans le spirituel et c'est marrant parce que moi, je vais être dans l'action alors que, bon, tu me connais, normalement, je suis plutôt spirituelle,
oui,
mais
oui,
ce
c'est
serait
ça qui est intéressant.
Prendre soin de soi et s'écouter, surtout en fait, s'écouter. Parce que je trouve qu'il y a parfois une forme de déni quand même autour de la santé mentale et un chemin très long avant de se rendre. Exemple, tu vois, des troubles du comportement alimentaire, il m'a fallu 6 mois pour réaliser parce que je prenais pas le recul nécessaire pour me rendre compte de ce qui se passait et que je m'écoutais pas. Je voyais, mais j'étais dans ce truc, ce déni. J'écoutais pas non plus ce que les autres disaient autour, avec des jugements quand même bon, plus ou moins constructifs. Mais je pense que si j'avais pris le temps d'écouter aussi à ce moment-là, ça m'aurait fait réaliser les choses plus tôt. Donc bon, après, tout arrive pour une raison. C'est pas grave que ça ait mis du temps. C'est pas ce que je dis, mais je pense plus prendre le temps pour soi, comme toi tu disais, à hauteur de 1 minute ou même des activités plus longues. Ça peut permettre de plus s'écouter et d'entendre ce que parfois aussi ton corps dit pour soigner ton mental.
Ouais, je vois ce que tu
Parce que ça passe beaucoup par le corps. Enfin, moi, je sais que ce soit pour l'anxiété ou les choses comme ça, ok, ça tourne beaucoup dans la tête, mais il y a un moment donné où ça se manifeste dans le corps. Et on est beaucoup, tu sais, à rejeter ces trucs et dire bon, je suis un peu fatiguée ou ça va passer.
C'est pas le moment.
Et, ou à remettre à plus tard, tu sais, de dire ça va finir par s'arranger tout seul. À un moment donné, là-haut, il a trouvé une solution et ça va s'arranger tout seul. Non, mais c'est vrai.
C'est trop vrai.
Carrément. Donc, c'est un peu optimiste. Donc, c'est cool, tu vois, de penser comme ça. Mais il y a cette forme de déni et de non-écoute de soi. Peut-être parce qu'on est tous dans notre quotidien, effrénés, je sais pas. Mais moi, je dirais l'écoute en vrai. Prendre soin de soi et l'écoute. Voilà.
En fait, je pense qu'il n'y a pas de, tu vois, de bonne ou mauvaise raison. Vision, c'est qu'en fait, c'est important de trouver ce qui nous correspond, mais c'est aussi important de mettre des mots sur c'est quoi la santé mentale, parce qu'en fait, finalement, le terme, on le connaît, mais qu'est-ce qu'on y met dedans ? Et je pense que la santé mentale, c'est un bien-être intérieur qui te convient. Il y en a, ça va être faire du sport, il y en a, ça va être se retrouver seul, il y en a, ça va être plutôt être spirituel. Enfin,
ouais.
En fait, on y met ce que l'on veut, et je te rejoins beaucoup dans s'écouter. Trouve ce qui te parle et ça va te nourrir dans tous les cas et tu y mettras le temps que tu veux. Enfin, ça me parle beaucoup.
Mais c'est tellement important le nombre de fois. Tu sais, tu l'as, cette petite voix qui te parle. Donc, soit elle te dit, fais pas ça, c'est dangereux, ouais, on va te juger. Ou tu sais, ce truc de, ça va être bien, en vrai, tu vois que ça te plaît. Tu sais, et on est tous là, je suis pas sûre, ou il y a un tel qui m'a dit ça. Mais on l'a, la réponse, tous, oui, au fond de nous. Et si on apprend, tu vois, et s'écouter, je suis convaincue que pour un milliard de domaines, la santé mentale inclus, ça peut que s'améliorer dans le temps. Donc, ouais, je pense que s'écouter, moi, c'est un des mots que je mettrais. Mais tu sais, c'est beaucoup par rapport à mon expérience personnelle. Comme tu disais, il y a tellement de spectres. C'est en fonction de chacun.
Complètement. J'ai extrait, en fait, l'une des études scientifiques qui m'a beaucoup intéressée, extraite du livre de Sarah Zitouni, qui est aussi passée dans le podcast là récemment. Et c'est son livre qui s'appelle « Comment réussir sa carrière pro sans y laisser sa peau ». Et cette étude, elle dit que 43% des femmes leaders sont en burn-out contre 31% des hommes au même niveau hiérarchique. Et moi, honnêtement, le pourcentage, il m'a frappée. Je me dis pourquoi c'est, pour la majorité des cas, une histoire de femmes, selon vous. Pourquoi les femmes sont plus exposées à cette surcharge de pensées, d'actions, de tâches que les hommes ?
Franchement, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus.
Tu as 2 heures. Non, tu les as pas.
Non, franchement, je sais pas si vous serez d'accord avec ça ou non, mais moi, je trouve qu'en tant que femme, on a tendance à... Et attention, je suis pas du tout dans cette dynamique de victimisation ou de conflit homme-femme ou tout ça. Pour moi, au contraire, on est tous dans le même bateau. Mais je pense que en tant que femme, on a tendance beaucoup à énormément prendre de responsabilités sur nos épaules et à avoir un peu ce rôle de... En anglais, il y a un bon mot pour ça, caregiver, tu vois. On veut vraiment... on fait attention à tout le monde, on veut que tout le monde soit bien. On a tendance à beaucoup mettre les besoins des autres avant les nôtres. Beaucoup plus, je trouve, qu'un homme, en général. Parce que c'est aussi un conditionnement, c'est ce qu'on apprend. C'est... Donc, je pense que c'est aussi lié à ça, en fait. C'est, pour moi, le fait que plus de femmes soient en burn-out, c'est aussi parce que, comme tu l'as très, très bien dit, il y a un vrai besoin de s'écouter et je pense que les femmes n'apprennent pas à s'écouter. Elles apprennent à écouter les autres très, très bien. On sait très bien écouter les autres, on sait répondre aux besoins des autres, donner aux autres, mais on n'apprend pas à s'écouter nous-mêmes. Et du coup, à force de ne pas s'écouter, sur le temps, en fait, tu finis par te brûler, tu finis par t'éteindre et tu finis par faire un burn-out beaucoup plus vite. Du coup, je pense qu'un homme qui va peut-être plus facilement... Après, je ne veux pas généraliser parce que, bien sûr, le burn-out, ça touche tout le monde. Mais un homme peut peut-être plus naturellement s'écouter et se connecter à ses besoins. En tout cas, moi, personnellement, je ne parle pas pour toutes les femmes, mais je sais que moi, j'ai beaucoup, beaucoup eu tendance à mettre les besoins de tout le monde avant moi, ma famille, mes amis, mes collègues ou peu importe, et à vraiment... minimiser mes ressentis et même les symptômes de mon corps, parce que c'est vrai, le corps parle, tu vois. Moi, j'ai du psoriasis, par exemple. Je fais de l'acné quand je suis stressée ou quand je me sens épuisée. J'ai certains signaux de mon corps qui reviennent à chaque fois, c'est un peu les mêmes. Et j'ai tendance à pas forcément les écouter, tu vois. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est parce que, de mon point de vue, les femmes s'écoutent moins elles-mêmes et se priorisent moins.
Ouais, on a cette posture en fait naturelle qui est de, je me mets dans la posture de aidante. En fait, il y a vraiment ce truc-là. Encore une fois, c'était Sarah Zitouni qui me disait, parce qu'elle est très calée études scientifiques, elle me disait qu'il y avait une étude qui avait été faite dans une cantine, je crois à Stockholm aussi. Faudra vérifier la source, mais qui regardait en fait les enfants à la cantine scolaire quand ils faisaient manger en fait les garçons et les filles en même temps, ils se sont aperçus que les filles mangeaient moins. Quand ils se sont mis à séparer les garçons des filles, les filles se sont mises à manger plus parce qu'elles osaient plus se servir. Parce qu'en fait, quand elles mangeaient avec les garçons, elles laissaient d'abord les garçons se servir, il en restait moins, et donc elles mangeaient moins. Mmh. Et tu te dis, c'est incroyable, parce que c'est inconscient à cet âge-là, et déjà, c'est très significatif.
C'est fou, quand même.
Ouais, c'est
fou.
Ouais, c'est dingue.
C'est fou.
Moi, j'aurais dit quand même qu'on a besoin de... Pareil, je ne veux pas rentrer dans le statut de victimisation, etc., mais de plus prouver. Et là, je parle de mon expérience personnelle. Dans l'immobilier, c'est quand même, bah, tu le sais, hein, ouais, masculin. Et j'ai beaucoup pris, en fait, les réflexions hein, de front. On peut parler au patron.
Au patron, ouais.
Je suis la patronne.
On t'a déjà dit ça, littéralement.
Ouais, 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 on m'a déjà dit. Et du coup, qui est le patron? Bah, c'est moi. Ah, tu vois, ce truc systématique de « ce n'est pas moi ». Qui a créé ou dirigé l'entreprise jusqu'ici, c'est forcément quelqu'un d'autre de figure masculine. Et moi, je ressens ce truc, et c'est peut-être aussi une mauvaise image que je me fais du monde extérieur, et moi qui me mets la pression davantage pour prouver des choses, mais j'ai la sensation que par rapport à mes pères masculins dans l'entreprise, j'ai besoin de prouver plus de choses pour montrer que j'ai de la valeur, qu'il faut m'écouter... Et pourtant, c'est paradoxal parce que c'est moi la plus visible dans la boîte. Mais pour ce qui est de commercial, négociation et toutes ces choses-là, je sens que j'ai beaucoup moins ma place que... Bon, quand je fais la pitre sur YouTube, clairement, qu'on se le dise, tu vois. Bon, ça se résume pas à ça, mon métier, mais j'ai ce ressenti-là. Et du coup, je me donne 2 fois plus. Et si tu dois te donner 2 fois plus sur la même période de temps qu'un homme, bah forcément, tu fatigues plus vite. Si tu combines à ça le fait que tu ne t'écoutes pas et que tu vas plus écouter les autres, que tu vas plus donner que recevoir... Bah, t'en arrives au burn-out, en fait, aussi vite, plus vite que ce que tu penses, quoi.
Donc voilà, après...
J'aime bien parce qu'on a, de façon naturelle, on a en gros la réponse à cette question. Je me suis posé cette question parce que je me suis dit, mais c'est quand même hyper significatif. Pourquoi ? Pourquoi c'est pas uniquement... C'est cliché de dire on a plus de tâches ménagères à faire à la maison. Je pense pas que ça se joue que à cet endroit-là. Je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle la charge mentale qui est de je dois penser... Pourquoi je dois penser à beaucoup de choses ? Parce que je pense pour l'un. Parce que je pense pour... Et là, on revient dans ce cercle de je me mets en posture d'aidante. Et donc, en fait, moi, je le vois inconsciemment. Je dis, moi, je pense pour quatre. Et c'est vrai. Et donc, en fait, je pense pour lui, pour elle, pour lui, pour elle. Et quelque part, bah, psychologiquement, ça fatigue. À la fin de la journée, t'es un peu plus irritable, irrité. Et ça crée forcément ce déséquilibre de dire... Mais je comprends pas pourquoi tu es fatiguée aujourd'hui, parce que c'est pas visible. En fait, on n'a pas travaillé plus que l'autre, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un truc vraiment invisible et qui pourtant est vraiment présent.
Totalement, c'est une charge mentale énorme hein, de réfléchir pour tous tes proches. C'est juste très très lourd. Je me demande si c'est une charge qu'on se met nous-mêmes, qu'on s'impose à nous-mêmes, ou si c'est une charge qui nous est imposé, je sais pas. C'est une vraie question que je me pose sur ce sujet.
C'est ce que je disais juste avant. Je sais pas si moi toute seule, je me mets la pression parce que je veux réussir et prouver que je suis capable, ou est-ce qu'à un moment donné, par des petites réflexions comme celles que là j'ai pu donner en exemple, du coup ça m'a conditionnée à me dire tu vas devoir donner plus que les autres. Donc ça, j'ai pas réellement la réponse, mais je vois ce que tu veux dire par ce truc invisible, parce qu'en plus on n'ose pas le verbaliser par peur d'être décrédibilisé derrière.
Exact.
Tu le verbalises pas, et bah du coup, quand ça en vient à « qu'est-ce que t'as, t'es fatiguée », ça tombe de nulle part et t'as l'impression, toi, que tu exagères et t'es dans ce truc, ce cercle vicieux. Voilà, et t'es dans ce cercle vicieux, bah du coup, tu dis plus rien et tu subis. Et en fait, c'est là où vient le burn-out. Et souvent, sans crier gare, tu te retrouves dans le fond de ton lit à pas pouvoir te lever. Et la plupart des gens que je connais autour de moi qui en ont eu me disent « mais je m'y attendais pas ». Mais c'est parce que c'est ce truc invisible de pas de communication, je m'écoute pas. Tout s'accumule, en fait, tu te retrouves un jour dans ton lit à te dire je ne peux pas me lever, mais je ne sais pas pourquoi. C'est quand même fou.
C'est trop vrai.
Ouais.
Il y a un truc, moi je le vois quand j'ai les femmes avant qu'elles franchissent le pas pour l'immersion à Loa, où ce qu'elles me racontent, moi je me suis aperçue de ça, c'est que cette charge mentale, ou en fait c'est... Je trouve que c'est le fléau de notre société, parce que la femme a cette grande capacité de s'apprêter, d'endosser son plus joli sourire et de dire « mais tout va bien », alors qu'à l'intérieur d'elle, ça ne va pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle va rentrer chez elle et elle va être dans cette vie qui subit. Mais aux yeux de la société, tout va bien. Et donc, c'est pour ça que je pense que la santé mentale est sous-cotée, parce qu'il y a un petit peu cette notion de honte, de dire « je suis fatiguée, là, j'ai besoin de me reposer », c'est un peu un signe de faiblesse. Et je trouve que c'est beaucoup moins reconnu parce que, justement, ça ne se voit pas et qu'on le cache plutôt bien. Moi, là où je m'interroge, c'est que, en vous écoutant, vous vous posez la question. C'est-à-dire que, en fait, en vous posant la question, ça veut dire que c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre de conscience dessus. Donc, si c'est inconscient, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un conditionnement qui est là depuis très longtemps ? Et tu vois, je me pose cette question.
Moi, je pense qu'il y a un conditionnement chez les femmes et chez les hommes aussi, tu vois. Parce que les hommes aussi, je trouve, ont beaucoup de mal à exprimer d'une autre manière, sous une autre forme. Mais les hommes ont beaucoup de mal à être vulnérables, à dire « j'ai besoin d'aide, ça va pas, je suis dépassée ». Il y a toute une pression chez les hommes de paraître viril, d'avoir l'air de tout contrôler, de tout maîtriser, de surtout pas s'effondrer ou s'écrouler. Donc je trouve que des deux côtés, je pense qu'il y a une forme de conditionnement, mais c'est un conditionnement qui nous dessert. Je sais pas spécifiquement, je saurais pas pointer d'où ça vient, même si je pense que bien sûr... à l'école, à la maison, dans la société de manière générale, ce qu'on nous renvoie, ça doit forcément jouer. Mais je pense que des deux côtés, il y a une forme de conditionnement. Et...
En fait, sans chercher le point de départ, moi, je pense qu'aussi, on pourrait chercher ce qu'on pourrait faire, tu vois, à l'instant T. En fait, la responsabilité, elle est de notre... c'est notre responsabilité.
Bien sûr.
D'abord de
d'en parler, tu vois, de mettre le doigt dessus et de faire des choses pour, mais aussi l'environnement dans lequel tu es, de faire en sorte que ça aille bien ou que tu sois capable d'en parler, que tu te sentes assez confortable pour en parler. Moi, je sais que dans l'entreprise, on a créé les conditions pour en parler et j'aurais jamais honte d'en parler. Du coup, si j'en parle, c'est ma responsabilité à moi. Je décide de ne pas en parler pour X ou Y raison. Donc, il y a ces deux pans-là sur lesquels, à mon avis, il faut absolument travailler. C'est l'environnement dans lequel tu es. Tu dois te sentir capable d'en parler le jour où ça ne va pas pour pas que ça dure. Et toi aussi, il faut que tu arrives à t'écouter pour comprendre que ça ne va pas et le dire, en fait, avoir le courage de le dire. Je pense que ces deux pans-là sont super importants. Parce que moi, tu vois, ce qui m'a empêché de parler, c'est moi. La honte. La honte de me dire, mais tu n'arrives pas à manger. C'est un besoin primaire que tu sais faire depuis que tu sais marcher et tu n'arrives pas à manger. Tu sais, ce truc de dire, même si j'ai mon entourage, je pense qu'il m'aurait soutenu dès le début, ça a été le cas dès que j'en ai parlé. Mais ce truc de, au fond de moi, jamais de la vie je m'effondre et jamais de la vie je vais montrer cette facette de moi parce que c'est la honte. Même si c'est faux, hein, évidemment, c'est pas ce que je pense. Mais à ce moment-là, c'est moi, ma responsabilité que j'ai engagée à me dire non, j'en parle pas. Donc, je pense que c'est important ces deux spectres-là, tu vois, de... Ben, on en parle encore, hein, de l'environnement extérieur, en fait, avec l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Hein.
Ben oui.
On y revient.
Ben oui, mais ça a forcément un impact. Moi, ça me fait penser à... Je ne sais pas si vous la connaissez, cette phrase, mais il y a une phrase d'un penseur qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et ça m'a fait waouh, je vous la partage. Il disait, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade.
Incroyable, cette phrase, je l'adore.
On est d'accord.
C'est pas Freud qui avait dit ça ?
Non, c'est très difficile à prononcer son nom. C'est un penseur indien.
Sadhguru ? Non, c'est pas lui.
Non, c'est Jiddu Krishnamurti.
Krishnamurti, voilà. Krishnamurti, je l'adore.
Ah, elle l'a avec Mariam, elle l'a hyper bien.
Mais oui, je t'ai laissé le dire, tu vois.
Elle t'a grave testé.
J'ai mes notes.
J'adore, voilà. Ah, il est génial, Krishnamurti. Franchement, ses livres sont excellents. Ouais, il est trop, ouais. C'est trop vrai. Moi, je trouve que c'est super vrai. En fait, c'est assez intéressant. Et je réfléchissais beaucoup à ça, tu vois, dans la création de contenu ou dans le fait de gagner de la visibilité. Je me disais, c'est fou, tu vois. Bah, par exemple, moi, dans ce que je fais dans le coaching ou dans le développement personnel, j'ai l'impression, après, c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que les gens vont plus valoriser et admirer le fait que j'ai une grosse communauté plutôt que ce que je peux apporter aux gens, tu vois.
C'est intéressant.
Ouais. Et en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu valorises, toi, Mariam ? Comment est-ce que tu te donnes de la valeur ? Parce que le problème, c'est que quand les gens viennent te voir, ils te regardent avec des étoiles dans les yeux, waouh, c'est fou ce que tu as fait, etc. Ce que je ne crois pas, moi, dans ma perception, tu vois, je me dis pas, oh, c'est fou ce que tu as créé. Mais à un niveau inconscient, tu commences à croire que ah, c'est ça qu'il faut que je fasse parce que bah, y a toutes ces personnes qui me valorisent pour ce truc-là. Mmh. Et je me posais la question, tu vois, qu'est-ce que les gens valorisent ? Qu'est-ce que la majorité des gens valorisent ? Le fait d'être célèbre, d'avoir beaucoup d'argent, d'être très attirant physiquement, d'avoir une certaine apparence, tu vois. Et je me suis posé la question, mais est-ce que tu valorises ça parce que c'est réellement important pour toi ? Ou est-ce que tu valorises ça parce que c'est important pour une majorité de personnes ? Et ça revient vraiment à cette phrase que tu disais, c'est pas parce qu'une majorité de personnes valorise le fait d'être connue, par exemple, ou le fait d'avoir une certaine apparence physique, que ça a de la valeur. Et le problème, c'est que bah, on donne de la valeur à ça, tu vois.
Mais tellement, c'est ça fou. Résonne tellement. Grave. J'ai eu cette histoire-là, mais véridique.
C'est l'histoire de ta vie.
Ah mais non, mais attends, là, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai acheté une maison en campagne, là, dans les Deux-Sèvres.
Félicitations encore.
Ouais, bravo. Félicitations, ouais.
Et dites-vous que j'ai failli ne pas y aller. Non, mais écoutez bien, parce que je me suis dit, on a cette image de la chef d'entreprise qui vit dans une ville comme Paris, Dubaï, New York, où ça va vite, elle bosse dans des cafés, elle rencontre des gens.
Ouais, elle va girl boss, quoi.
Ouais. Et je me suis dit, mais attends, si je fais ça, ma boîte, elle va couler, en fait, si je vais vivre à la campagne. Et c'est pour ça que ça résonne de fou, ce que tu dis en moi, c'est qu'il y a ce truc de, on a des images, des conditionnements qui font que ça va nous diriger vers des choix qui nous correspondent parfois. Pas du tout, parce que cette maison à la campagne, moi, je sais que j'en rêve, je sais que je le veux, mais j'ai eu ce doute qui m'a habité de me dire, mais ça se trouve, ma boîte, elle va couler juste parce que j'ai changé d'endroit, tu vois, mais ça n'a pas de sens. Hein. Si on prend du recul, rationnellement parlant, ça n'a pas de sens, mais émotionnellement parlant, il y a un truc qui est né là, où je me suis dit, j'ai la boule au ventre qui monte juste parce que j'ai cette image que les gens donnent de l'entrepreneuriat, de la chef d'entreprise qui est X ou Y, et je vais m'empêcher de vivre ce bonheur-là pour ça.
Mais dans ce que tu dis...
C'est trop intéressant.
C'est fou, hein.
Je rebondis parce que, pareil, ça résonne beaucoup. Je pense que dans ce que tu dis, c'est pas l'idée d'être chef d'entreprise et de vivre à la campagne, en fait, que tu défends, parce que, quelque part, t'as associé ça à un cliché qu'on t'a montré. Mais je dirais que c'est plus le sentiment qu'il y a derrière que tu défends. C'est-à-dire, toi, ça te procure quoi ? Et il y a un petit peu ce truc de, finalement, je m'autorise à vivre la vie que je veux.
Ah oui, c'est ça.
Et fuck, quoi ?
C'est un acte de rébellion. Vois, voilà. Mais là, l'achat de la maison, c'est un acte de rébellion.
Ben voilà. Et donc, c'est clairement ça, en fait. La subtilité, elle est vraiment là, je pense.
Mais ça demande du courage, hein, parce que ça m'a fait flipper. Encore aujourd'hui, ça me fait flipper. C'est OK. Je sais que là où il y a de la peur, parfois, tu vois, c'est là où le challenge se trouve et où tu t'élèves. Mais il y a des gens, je me dis, tu sais, qui sont tellement ancrés dans ces trucs-là, dans ces images qu'on nous envoie. Même les réseaux sociaux, regarde, à toute la journée, on nous envoie des images comme ça, de millionnaires qui ont des voitures de fous. Tu vois, moi, par exemple, une voiture, ça ne me fait pas du tout rêver. Si je devais m'acheter un truc avec de l'argent, ce serait un voyage avec mes proches, tu vois. Mais il pourrait y avoir ce sentiment de culpabilisation à me dire, j'ai pas une voiture de ouf alors que j'ai de l'argent, par exemple. Et c'est dur d'aller à l'encontre de ces choses-là, parce que quand t'es influencé à longueur de journée par ça, bah, tu te crées des peurs qui sont irrationnelles. Là, tu vois, pour la maison, c'était irrationnel parce que j'en avais envie. Et c'est ma coach qui m'a dit, bon, au pire des cas, t'es pas un arbre, hein, tu déménages si t'as besoin. Donc ça m'avait fait rire quand elle avait dit ça. Mais quand le cerveau prend le dessus et que ça tourne en boucle, c'est dur aussi de revenir au cœur et te dire, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? On en revient à s'écouter, encore. Hein. Mmh. Encore et toujours.
C'est trop vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai que c'est un acte de courage de s'écouter et de se dire, qu'est-ce qui est juste pour moi ? Pas pour les autres ou pour la majorité de personnes, mais pour moi. Et t'as raison, c'est vrai que ça fait peur parce que tu te confrontes à toutes les associations que t'as faites à quelque chose, bah, peut-être qu'on associe, et comme tu dis, le succès à certaines voitures ou certains environnements ou une certaine posture. Et on se rend pas compte que, en fait, c'est absurde parce qu'on est tous coincés dans le même truc. Parce que du coup, il y en a tellement comme toi ou comme moi qui se disent, mais c'est bizarre, ça résonne pas avec moi, moi je me verrais faire autrement, mais qui s'enferment dans ça parce que les autres s'enferment dans ça et tout le monde s'enferme dans ça et finalement on croit que le succès c'est ça, mais le succès c'est s'écouter finalement, tu vois.
Mais oui, parce qu'au final...
J'adore cette phrase. Le succès c'est s'écouter. Je l'ai noté, j'ai pas stylo.
Mais non, mais c'est vrai, parce que si tu t'enfermes dans une vie comme ce qu'on a pu te dicter, par exemple, je sais pas, le cliché ultime du millionnaire à Dubaï avec une belle voiture, belle maison, mais si c'est pas ce que tu veux, le burn-out il te guette de la même manière que si tu travailles, que tu veux prouver, etc. Je veux dire, enfin, si tu te retrouves pas dans cette vie-là, tu finis forcément malheureux parce que tu t'es pas écouté à un moment donné et que t'as fait des choix en fonction de ce que t'entends ou des images que t'as, quoi, de tel ou tel domaine.
Trop vrai.
Il y a une forme aussi, je trouve, de désobéissance où on nous a appris d'être sage, d'être gentil, d'écouter les règles, de respecter les règles. Il y a quelque chose de très encadrant chez nous. On a mis un peu facilement là-dedans. Et je pense que dans tout ce que vous dites, au fond, il y a un peu ce côté disruptif que c'est « waouh, je suis presque un peu rebelle, quoi
ouais. !»
Alors que c'est quand même... On parle de l'achat d'une maison. Enfin, c'est
non mais oui,
en
y a...
soi,
oui,
non mais... de façon très factuelle, il n'y a rien de fou, quoi.
Oui, mais comme quoi, tu vois, en fait, le message que j'ai derrière ça, c'est que la moindre action un peu banale... Ton cerveau, il peut en faire une mélasse en un rien de temps avec des associations fausses. Mais si, en fait, j'avais vu une phrase comme ça, si tu le tournes 14 fois dans ta tête, ça devient réel dans ta tête. Alors que si tu le dis, tu vois, à haute voix, une fois, tu peux décortiquer le truc et te dire où est le problème, d'où ça peut venir, etc. Mais alors que si tu le tournes dans ta tête, ton cerveau, il va toujours trouver un scénario encore pire que le précédent. Et plus tu vas y penser, moins ça va être une bonne idée. Alors que de base, c'était un truc que tu avais envie de faire. C'est souvent comme ça qu'on se décourage d'ailleurs. C'est même pas des forces extérieures, c'est nous-mêmes. Par manque de confiance en nous, par manque de légitimité, par peur. C'est nous-mêmes, à un moment donné, on jette l'éponge et on arrête d'y croire ou de le faire, quoi, d'engager des actions pour faire les choses. J'ai failli prendre ma maison. Mon agent immobilier serait pas content d'écouter ça. J'espère qu'il est pas en train de m'écouter.
C'est un médecin qui disait, j'adore cette phrase aussi, je vous en partage plein aujourd'hui, vraiment je suis fan. Votre santé n'est pas l'affaire que de la médecine, elle dépend aussi beaucoup de vous. On en parlait tout à l'heure, un petit peu de cette responsabilité de comment je m'occupe de moi. Et on en revient encore sur l'extérieur, mais je prends l'exemple de... c'est la Corée du Sud où il existe des centres... Enfin, ils sont absolument obsédés par leur santé dans ce pays. Et donc, justement, le contexte extérieur met tout cet environnement propice pour justement s'occuper de sa santé. Et donc, ils mettent à disposition des centres avec des nutritionnistes, des coachs sportifs, des infirmières, etc., pour venir checker à chaque fois son niveau de santé, etc. Et en fait, on se rend compte que la santé mentale, ça devient en fait juste un art de vivre. C'est légitime, de, quand on est sur cette terre, de vouloir faire en sorte que cette expérience de la vie se passe au mieux possible. On part d'un principe qui est plutôt... c'est un standard, quoi. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on en fait quelque chose d'assez incroyable en se disant, mais c'est quoi les secrets de ça? Et quand je vois la Corée du Sud qui met en place, ils ont cet objectif 100 ans. Ça me parle énormément, l'objectif 100 ans. Et en fait, tu regardes que même dans la façon de s'alimenter, ils ne mangent pas pour manger, ils mangent pour être bien. Donc, ils vont manger du gingembre parce que, je dis n'importe quoi, c'est peut-être anticancéreux. Et voilà. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent le manger spirituel. C'est-à-dire se nourrir pour prévenir d'une quelconque maladie et donc pas attendre d'être malade pour se soigner.
C'est ça, eux, c'est de la prévention. C'est ça. Et nous, on est beaucoup dans le soin une fois que c'est trop tard.
Voilà, exactement.
Et eux sont beaucoup dans l'anticipation et comprendre en fait quels sont les rouages qui font que tu ne tombes pas malade. Et nous, on cherche les solutions une fois que tu es malade. Quoique ça se répande de plus en plus maintenant, cette méthode-là, mais... Après, je suis mal placée pour dire ça parce que je l'ai complètement pris aujourd'hui. Je suis pas malade.
Va te soigner, Laura.
Vraiment, le culot.
Tu n'as pas anticipé ça.
Non, mais c'est parce que je suis fatiguée, tu vois. Je ne me suis pas écoutée. Je pense que je suis tombée mal. Ah oui, c'est le corps qui parle. Mmh. Mais je suis extrêmement culottée de parler de tout ça aujourd'hui. Alors que je suis vraiment la première à ne pas m'écouter.
L'audace.
Je me mets sur mon téléphone. Voilà. Ça aussi, c'est un acte de rébellion, tu vois, en plein podcast. Mais oui, c'est vrai que je suis d'accord sur l'alimentation surtout. Mmh. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur ton. L'anxiété,
oui.
Rien que l'anxiété. Moi, j'ai vu la différence avec les aliments par rapport juste à l'alimentation.
Bah, par exemple, tiens, qu'est-ce que tu manges, toi, et qui te fait du bien? Tu sens les effets?
Alors, c'est pas des aliments, tu vois, en particulier, c'est plus que j'ai pu retirer. Genre, par exemple, je sais que moi, les produits laitiers, dès que j'en consommais, oui. J'avais le bide en vrac. Mmh. Et je sais pas pourquoi je m'obstinais. Tu vois, c'est comme le téléphone où tu sais que c'est pas bien le matin quand tu te réveilles. Je m'obstinais et quand je les ai enlevés, j'avais ce confort intestinal qui était 10 fois plus agréable. Et ça a fini par aussi réduire mon anxiété parce que le ventre est très relié aussi à la tête, mine de rien. Et tu vois, bah, quand tu te sens pas ballonné, t'es moins irrité. C'est logique, quand t'es pas bien dans le corps, t'es pas forcément bien dans ta tête non plus. Donc ça a été aussi, bah, encore une fois, de m'écouter, enfin d'écouter mon corps, les signaux qu'il m'envoyait, d'arrêter de boire... je sais pas, 10 cafés à la journée parce que c'est comme 10 cafés, 10 thé à la journée parce que c'est comme le café, ça va t'exciter, d'éviter le thé le soir et d'en placer par la tisane. Des trucs tout bêtes comme ça où tu te renseignes un peu et tu vois la différence en fait sur ton sommeil, sur ton corps, sur ta santé. Me complémenter, tu vois, ajouter des compléments alimentaires. Quand j'ai ajouté ça dans ma vie, je me suis dit mais waouh, parce que ça c'est de la prévention aussi.
Oui, puis tu traites l'intérieur, enfin, c'est génial.
Et moi ça, tu vois, mon médecin m'en a jamais parlé. C'est moi, de par mes recherches, je me suis rendu compte que bah de prendre des vitamines, multivitamines et vitamine C, je suis moins malade l'hiver. Bon, encore une fois, c'est pas un super exemple, mais... mais tu vois que ça a des effets parce que bah, forcément, on a des carences ou des choses comme ça. On est stressé, on dort moins bien, magnésium et trucs comme ça, tu vois sur le long terme, en fait, les effets.
Toi aussi, Mariam, t'as vu des changements en fonction de certains aliments ou le rapport que tu pouvais avoir à, tu vois, à un certain moment de ta vie ou une saison ton rapport à la nutrition?
Complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Laura a dit. En fait, après, j'ai eu aussi un rapport compliqué avec la nourriture, parce que moi aussi, j'ai fait de la... Enfin, je sais pas exactement ce que tu as traversé, mais j'ai fait de l'anorexie quand j'étais adolescente. Et pendant quelques années, j'ai eu un rapport un peu particulier avec la nourriture. Mais récemment, j'ai commencé à essayer, en tout cas, je suis pas du tout parfaite sur ce sujet, mais à essayer de manger intentionnellement et de pas manger, tu vois, j'ai une phase par exemple où je mangeais, je voulais de la nourriture confort, en fait. Donc, je mangeais que de la nourriture confort, des pâtes, des trucs un peu lourds, tu vois, mais qui te réconfortent quand t'es pas sain. Mais c'est vrai que récemment, j'essaye de manger plus intentionnellement, en pleine conscience. J'y arrive pas toujours, mais j'essaye. Et le fait, tu vois, ce que t'as dit sur le fait d'être ballonné, ce genre de truc, tu vois, ça peut paraître totalement anodin. Mais c'est très important, en fait. Ça joue tellement sur ton état d'esprit. Le café, pareil, tu vois, j'ai vraiment beaucoup diminué le café. Pour les ballonnements, j'ai trouvé quelque chose de juste incroyable qui m'a changé la vie.
Partage, c'est okay. L'histoire de ma vie, ça.
Alors, je t'explique, ça m'a changé la vie. Hein. Moi, vraiment, c'est un truc de fou. C'est tout simple. Mais c'est de boire de l'eau avec du vinaigre de cidre. Je sais pas si t'as déjà essayé.
J'ai déjà essayé.
Mais c'est-à-dire toute la journée. Hein. C'est pas
Toute la journée.
Ouais. C'est pas juste tu te réveilles, tu bois un verre d'eau avec. Non, c'est. T'as ta bouteille d'eau, t'as une bouteille d'eau d'un litre et demi. Tu mets environ, je sais pas, une cuillère à café, deux cuillères à café par exemple de vinaigre de cidre. Et tout au long de la journée, tu bois ton eau comme ça. Après, tu peux boire de l'eau normale à côté, tu vois. Mais. Moi, ça m'a changé la vie, mais vraiment, c'est incroyable. Et en fait, il y a une femme qui parlait de ça, elle s'appelle Jessie, elle est assez connue, Glucose Goddess, vous voyez qui c'est ?
Non.
C'est incroyable ce qu'elle dit, elle parle beaucoup du glucose, et elle explique que quand tu, avant chaque repas, tu prends un verre d'eau avec un peu de vinaigre de cidre, ça fait baisser ton niveau de glucose de 30%, t'es beaucoup moins ballonné, tu te sens beaucoup moins lourd. Enfin, c'est incroyable. Moi, ça m'a changé la vie.
Mais je savais pas que le glucose était lié au ballonnement.
Je crois que c'est lié, ouais. Parce qu'elle disait que, en fait, ton niveau de glucose, il joue beaucoup sur ta fatigue, ta digestion. Tu vois, par exemple...
C'est quelque chose qui te ralentit, quoi.
Ça te ralentit beaucoup, ouais. Mais ça, franchement... C'est tout simple.
Bah oui.
Mais c'est toujours les solutions les plus simples. Le kéfir aussi.
Le kéfir.
C'est un truc mon grand-père fait du kéfir. C'est vraiment la solution très ancienne. Et pareil, le kéfir, c'est l'équivalent du vinaigre de cidre ou des prébiotiques, probiotiques pour ceux qui prennent en cachet. Ça te permet de dégonfler, d'éviter les ballonnements, etc. C'est souvent les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Il faut juste se renseigner un petit peu. Moi, je sais que au début, j'étais toute novice dans le domaine. Du coup, t'entends un peu de tout. Mais les solutions les plus naturelles et les moins compliquées, souvent, c'est celles qui fonctionnent le mieux.
Totalement. C'est vrai.
Trop bien. On a plein de tips. Non, mais ça me parle beaucoup parce que on disait la santé mentale, c'est un ensemble de plein de choses. On va parler du sommeil, on va parler de... Enfin, notre vie est composée de plein de besoins primaires. Et c'est vrai que quand on est à l'écoute de ce qui est OK, pas OK, tu vois, même manger en conscience, tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment changé la vie. Je sens que, parce que j'ai des enfants, dès que ça crie un petit peu, etc., je le sens, j'arrive pas à manger, par exemple. Et donc, on voit bien que le moment où on mange, c'est un moment qui est quand même très important pour le corps, pour l'esprit. Et moi, je sens que si ça crie autour de moi et que ça m'irrite un petit peu, je vais avoir mal au ventre et ça me coupe l'appétit. Donc, les conditions aussi dans lesquelles on mange sont hyper importantes. Est-ce qu'on regarde un truc pendant qu'on mange? Ou est-ce qu'on partage un moment? Ou est-ce que... Voilà, et je trouve que tout ça influence, parce que c'est pas... Bon, on va pas rentrer dans le détail de la nourriture, mais moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est que, mine de rien, c'est pas les aliments qui font grossir, c'est la culpabilité de manger certains aliments qui font grossir.
Mais tu sais que c'est prouvé scientifiquement, ça, hein.
Mais j'en suis convaincue, parce que c'est une histoire de conscience.
C'est très vrai. C'est très vrai. Ils avaient fait une étude hyper intéressante où ils avaient mis... deux groupes, ils leur ont donné le même milkshake aux deux groupes, sauf qu'il y en a un où ils leur ont dit, ils l'ont packagé comme un milkshake hyper sain, tu vois, un truc fait avec du lait végétal, etc. Vraiment un truc très très sain. Et l'autre, un truc bien fat, bien sucré et tout. Et ils ont mesuré, je sais plus quelle métrique ils ont mesuré chez les deux, dans les deux groupes, mais ils ont vu que dans le groupe où ils avaient présenté le milkshake comme un truc super sucré et tout, ils avaient accumulé plus de calories, ça a été plus calorique pour eux que le groupe où ils leur ont présenté comme un truc hyper sain, hyper... Donc ça montre vraiment que c'est notre perception, beaucoup plus que... Alors bien sûr, il y a des choses objectivement qui sont pas bonnes pour la santé, mais notre perception, elle joue énormément sur la manière dont le corps l'assimile, en fait. C'est fou.
Et les conditions que l'on crée dans ce moment qui est presque sacré, ouais. Je trouve.
C'est sacré,
totalement. Je trouve. Et puis en plus, c'est hyper culturel. Dans différents pays, le manger, c'est un moment de... On célèbre. Enfin, c'est un moment heureux, quoi. Et je trouve qu'on l'a rendu... On l'a un peu diabolisé, en fait, avec en disant c'est mal ou... Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que instaurer... tu vois, même là, je suis en déplacement, par exemple. J'ai arrêté de prendre les trucs à manger à la gare, même des trucs sains. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça n'a pas du tout le même effet sur moi et sur mon corps. Je prends maintenant mon petit tupperware, ma petite salade. Je ne compte pas les calories, mais je sens que ça a un effet différent. Parce que je pense, pour les raisons que tu as expliquées, c'est qu'on n'y met pas la même conscience, le même rapport. Et donc, du coup, l'effet dans le corps, il est complètement différent.
Totalement. Non, mais de toute façon... On pourrait en parler des siècles, hein, de la nutrition, l'alimentation. Après, je trouve qu'il y a, pour le coup, plus cette pression sur les femmes d'être minces. Il y a vraiment ce culte de la minceur qui va...
C'est terrible.
À l'extrême. Et on en vient, comme tu disais, à diaboliser le moment de manger. Mais même des trucs sains, hein. Parfois, quand tu rentres dans cette obsession-là, rien que le fait de manger, peu importe que ce soit une salade ou un burger, ça devient en fait un moment d'angoisse. Et c'est vrai que faut revenir, comme tu disais, à ce truc de j'ai la chance d'avoir à manger à ma table, ce que je mange me fait plaisir, ça fait du bien à mon corps, j'en ai besoin pour réfléchir, pour avancer, pour faire du sport, pour câliner mes proches, tu vois, faut remettre au centre en fait ce que c'est que de manger, parce que c'est vrai que quand tu le regardes que par le spectre du physique, tu tombes vite dans la spirale de l'angoisse et de l'obsession.
40% des Français manquent d'estime. Moi, j'ai trouvé ça énorme. Est-ce que c'est surprenant? Je ne pense pas. On est toutes dans le coaching et on voit nos clients. C'est toujours à peu près les mêmes grands items qui sortent. On parle de confiance, on parle de légitimité, d'estime. Mais moi, ce qui m'intéressait en fait dans ce chiffre-là, c'est que évidemment, c'est un chiffre qui affecte énormément la santé mentale, donc ce manque d'estime. Mais c'est surtout que c'est tout le système qu'un homme ou une femme a d'accomplir certaines tâches et certaines actions qui lui permettent de créer de la valorisation. Et je me dis qu'en fait, s'il estime que ses actions sont en opposition à ses valeurs, c'est en fait à ce moment-là que son estime baisse. Et donc, je me dis que dans ces 40%, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ne font pas ce qu'ils ont envie de faire.
Mais on en parlait tout à l'heure, regarde, c'est tellement facile de tomber là-dedans. C'est tellement facile parce que peu importe ce que tu fais...
Mais quand
fais,
tu le chiffres, tu vois, c'est... Waouh.
Et en même temps, tu vois, c'est tellement pas étonnant parce que tu connais forcément quelqu'un autour de toi. Regarde, toi, tu disais tout à l'heure avec Aloha, t'as tellement de gens qui sont là, mais ça fait 20 ans que c'est comme ça, ma vie, je suis pas heureuse. Mais bon, je peux rien faire, quoi. Ça fait 20 ans que c'est comme ça, foutu pour foutu. Autant aller au bout. T'as tellement de gens qui ont peur de sortir de leur zone de confort parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après. Ils préfèrent se complaire dans ce qu'ils ont maintenant. Parce que même s'ils sont malheureux, au moins, ils savent à quoi s'en tenir. Ils connaissent. Ça sort pas de leur quotidien. Donc ça m'étonne. En vrai, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne pas du tout qu'il y ait autant de personnes.
Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à tes clients pour qu'ils reprennent un peu ce... Parce que... Il y a la confiance en soi qu'on voit, alors qui peut être biaisée bien sûr, mais on peut jouer sur le comportement, le langage corporel, l'attitude, la façon de s'exprimer, la façon de réagir, la façon de penser. Et puis dessous, il y a l'estime, c'est-à-dire comment on se considère véritablement. Et est-ce que justement nos croyances de valeurs et nos croyances de règles qui dirigent notre vie, est-ce qu'elles sont en adéquation? Et en fait, je me dis, est-ce que cette estime, on peut venir la travailler, on peut venir la nourrir? Comment tu les accompagnes, toi, tes clients, sur cette partie-là? Comment je peux nourrir mon estime?
En fait, il y a ce truc dans le conscient collectif que la confiance en soi ou l'estime de soi, c'est inné.
Ouais, non, ouais.
Et moi, en fait, en général, ce que je dis aux gens que je coach, et ça les rassure, et pourtant ça va paraître ultra simple et bête, hein, ce que je veux dire, c'est que ça s'apprend. La confiance en soi, l'estime de soi, ça s'apprend. Et en général, ça enlève un poids parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui vont se dire, oh, bah, lui, il est bon à ça parce qu'il est né comme ça. Mm. Elle a réussi à faire ça parce qu'elle a telle et telle compétence avec lesquelles elle est née, quoi, ça lui est tombé dessus, et voilà. Et je sais qu'en général, ça rassure vachement les gens de se dire... tu peux l'apprendre, quoi. Ça se trouve, dans 6 mois, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ouais, je gère. Moi, je sais que les gens me disent beaucoup, ah, t'as de la chance, tes vidéos, t'arrives à être super à l'aise, t'es faite pour ça. Et je dis, mais attends, regarde mes premières vidéos, prenez du recul. C'est facile aujourd'hui de me complimenter sur ce que je fais depuis 4 ans, tous les jours. Mmh. Évidemment que toi, si tu te compares aujourd'hui, t'as jamais fait de vidéo de ta vie, tu sais pas ce que ça va donner, ça te fait peur. Ah oui, il y a forcément un écart entre nous deux. Mais fais la même chose que moi pendant 4 ans. Là, on peut parler. Donc, je sais que désacraliser un peu ce processus de « on est né avec, c'est inné », ça aide les gens parce que tu te dis « ok, si il ou elle a pu le faire, moi aussi ». Si c'est une question de travail, en fait, c'est une question aussi de volonté. Donc, ça se fait. Tout le monde peut le faire. Mm. Après, je sais pas toi ce que tu dis à tes clients, mais moi, je sais que ça les...
Ouais, je suis totalement... Franchement, je suis totalement alignée à 100% avec ce que tu viens de dire. Ce que je pourrais rajouter peut-être sur la confiance en soi spécifiquement, plus que sur l'estime de soi, c'est que je dis toujours à mes clients que la confiance en soi, c'est pas un ressenti, c'est une compétence que tu apprends. Et c'est exactement ce que tu as dit, tu vois, c'est vraiment une compétence comme tu apprendrais par exemple à faire des vidéos ou à t'exprimer en public ou... à aller en rencard, en date, tu peux tout apprendre. Et la confiance en soi, c'est une compétence comme n'importe quelle autre compétence. Ce que je leur dis toujours, c'est qu'on a tendance à attendre de ressentir à l'intérieur de nous, on est vraiment dans cette attente qu'à l'intérieur, on se sente confiant avant d'agir comme quelqu'un de confiant dans notre comportement à l'extérieur. Et ce que j'ai tendance à conseiller, c'est justement de switcher ça et d'accepter que au début, quand tu vas apprendre cette compétence de la confiance en soi, tu vas agir avant de te sentir confiant. Donc c'est l'action qui va passer avant le ressenti, jusqu'à ce que le ressenti rattrape et que tu te sentes en alignement entre tes actions et
ton ressenti. Fake it until you make it. Ça, c'est une phrase qu'une de mes profs d'anglais m'a dit et ça a révolutionné ma vie. Tu fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Tu vois, tu fais semblant d'avoir confiance en toi et un jour, en fait, tu te rends même plus compte, tu fais plus semblant, c'est toi. C'est
tu l'incarnes.
Ouais, c'est ça. Moi, ça a changé ma vie, hein, cette phrase, j'adore.
Et moi, ça me fait résonner par rapport au sport. C'est-à-dire, c'est un peu la même mécanique que tu décris là. C'est-à-dire qu'on... Ça a beaucoup de parler. Ça veut dire que souvent, on attend d'être motivé pour faire du sport. Or, c'est pas la motivation qui va te permettre de faire du sport, c'est la discipline qui va entraîner la motivation. Et moi, le jour où j'ai mis de la conscience là-dessus, je suis allée au sport.
C'est fou, hein.
C'est fou.
Mais en fait, finalement, la motivation, c'est quoi? C'est passer à l'action. Quand tu passes à l'action, tu te motives tout seul, en fait. Mm. On croit que la motivation, c'est ce truc qui va venir un peu tout seul, naturellement, mais quand tu te forces... Tu passes à l'action, tu crées de la motivation.
Complètement. Mmh. Et en plus, à force de le faire, il y a quelque chose que tu entraînes et qui devient une habitude. Cette habitude devient un besoin. Et après, c'est sans effort. Tu réfléchis plus de ce que j'ai envie d'y aller ou pas envie d'y aller. C'est mécanique. Et quand ça devient mécanique, là, c'est kiffant parce que ça devient ta norme. Et là, ça y est, c'est sans effort, c'est gagné.
Donc, totalement.
Moi, je trouve ça... fantastique. Enfin, effectivement, c'est des déclics, des tips, des mots, des phrases qui... Ok, c'est juste subtil comme ça, mais ça change la vie entière, quoi.
Totalement.
Moi, si je me reposais sur ma motivation...
Oui.
Tu sais, l'hiver, il fait pas beau, il pleut, il y a du vent. Enfin, en tout cas, à Nantes, c'est le cas. Et si je me reposais là-dessus, mais moi, je reste dans mon lit, devant Netflix, et je vais pas à la salle. J'ai pas envie. Par contre, la discipline fait que j'y vais parce que je sais que j'en ai besoin, parce que je sais que ça m'aide à atteindre mes objectifs. Je sais aussi que j'ai ma communauté derrière moi, j'ai pas envie de la décevoir. Donc, voilà, la motivation, moi, je dis toujours que ça sert à rien de se reposer dessus parce que c'est hyper variable. Alors que la discipline, quand tu crées la discipline, tu vois, comme, je sais pas, le matin... ne pas prendre ton téléphone. Bah, t'as la motivation, tu sais, des fois où tu peux être là, vas-y, juste aujourd'hui, personne le verra. Et la discipline qui dira, non, tu sais que ça te fait du mal, tu le fais pas, t'y touches pas. C'est la même chose, la motivation, si tu te reposes dessus, c'est des pics comme ça, des hauts et des bas, discipline, c'est constant. Donc oui, moi le jour aussi où j'ai réalisé ça, ça a fait la différence, hein, sur la salle, là où j'y allais deux fois par semaine et encore, des fois ça alternait, j'y vais 5-6. Et les gens, ils se disent 5-6 fois par semaine, mais comment tu fais ? Je dis, mais parce que quand il me manque une séance, je le sens. Ouais. C'est même pas de la culpabilisation, c'est que je sens que je suis angoissée, que j'ai pas évacué et que je me sens pas fière de moi aussi, tu sais, de me dire j'y suis pas allée. Donc, ouais, discipline.
Oui, parce que quelque part, tu déshonores l'engagement envers toi-même.
C'est ça. Donc, et envers les gens aussi.
C'est comme ça qu'on constitue la fierté, être fière de soi, c'est ça.
C'est ça, et envers les gens aussi, parce que j'ai des gens, tu vois, qui comptent sur moi, enfin, ma communauté compte sur moi. Et. Moi, je sais que, tu vois, le compte que j'ai créé, Lolo Pousse de la Fonte, c'était même pas pour moi au départ, c'était pour les gens. Et encore aujourd'hui, je l'anime pour les autres. Et encore ce matin, je reçois des messages de gens qui me disent « c'est bon, je mange et je m'écoute. » Et c'est fini l'obsession et la culpabilisation. Ça va me foutre les larmes aux yeux, tu vois. Wow. Mais c'est pour ça que j'ai créé mes comptes. Et c'est aussi ce que j'essaye d'inculquer aux gens, ces histoires de motivation, discipline, confiance en soi. C'est des choses que j'aborde tous les jours parce qu'en vrai, aller au sport, monter un business, c'est tellement lié à tous ces trucs-là.
C'est vrai.
Peu importe le domaine. Hein.
Bien sûr. J'ai interviewé Alain Bernard il n'y a pas longtemps et je lui disais, t'as nagé pendant 15 ans, tu t'es entraîné tous les jours. Comment on fait pour s'entraîner 6 heures par jour pendant 15 ans ? Il me dit, bah, évidemment qu'il y a des jours où je n'ai pas envie d'y aller. Je me dis, mais dans ces cas-là, pourquoi tu nages ? Enfin, pourquoi tu fais ça ? Parce que, en fait, les compétitions, ça se joue sur ces quelques secondes, finalement, et c'est tout ça pour quelques secondes. Je dis, pourquoi tu nages ? Je dis, c'est pour gagner des médailles, c'est pour être le premier, c'est... Il me dit, mais c'est rien de tout ça. Il me dit, moi, je nage parce que quand je gagne, j'offre un moment qu'on partage avec ceux qui me soutiennent, donc mon public. Donc, ils ont eux aussi l'impression d'avoir gagné la médaille d'or. On l'a gagnée ensemble. Je rends heureux mon entraîneur. Donc, c'est lui qui... Là, il a vraiment la sensation que c'est lui qui a gagné la médaille d'or. Sa femme, sa famille. Et en fait, il me dit, moi, c'est ça. C'est pour ça que je nage. Parce que, oui, c'est pas 100% de mon temps au quotidien. Mais ces moments-là, ils sont tellement précieux. On les vit pas tous les jours. Que c'est pour ça que je nage tous les jours. Et je pense qu'en fait, si on fait pas les choses... En mettant du sens, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il ne faut pas le faire pour le faire. Il ne faut pas faire du sport parce qu'il faut faire du sport. Le sport, ce n'est pas que physique. C'est aussi beaucoup psychologique. C'est prendre du temps pour soi. On y trouve le sens qu'on veut. Mais je trouve que voilà, mettre du sens dans ce que l'on fait permet de tenir sur la durée et pas seulement sur... je m'inscris, je fais les nouvelles résolutions de début janvier, je m'inscris à la salle et puis un mois après, on ne me voit plus. Là, clairement, il n'y a pas de sens, on ne sait pas pourquoi on fait ça. Donc moi, j'appelle ça, en fait, dans mes coachings, j'appelle ça des objectifs vérité. Parce que tu pars, en fait, sur un objectif en te disant, par exemple, je veux perdre 10 kilos, ok ? Tu sais ce qu'il va falloir faire en face pour perdre ces 10 kilos, de façon très factuelle. Et en fait, quand tu commences à creuser de, mais pourquoi tu veux perdre ces 10 kilos ? Et en fait, quand tu creuses, moi, ça m'est arrivé plein de fois, je me dis, bah, en fait, c'est pour retrouver une relation sereine avec mon mari. Ah, je dis donc l'objectif vérité, c'est pas perdre 10 kilos. C'est retrouver la relation sereine avec ton mari. Et donc là, on change, c'est-à-dire qu'on met cet objectif vérité. Et peut-être que dans cet objectif, il y a, de façon factuelle, entre autres, perdre 10 kilos, mais ce n'est pas l'objectif premier. Et c'est pour ça que l'objectif vérité peut se concrétiser plus facilement, parce que c'est ce qui est vraiment important.
Le pourquoi, en vrai, c'est enfin, pour toutes celles et ceux qui s'intéressent au business et au live business, le pourquoi, c'est un truc qui revient tout le temps sur la table parce que c'est vrai que peu importe le projet que tu veux monter, que ce soit du coaching, sport ou te tenir à des bonnes résolutions, pas regarder ton téléphone le matin, c'est le pourquoi qui fait que tu tiens sur le long terme.
C'est tellement vrai. Je suis trop d'accord avec ça. Si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, dès que ça devient difficile, tu t'arrêtes beaucoup plus vite. Ouais.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditrices qui nous écoutent de parce que je le sais, il y en a plein qui vont dire c'est trop bien, mais moi j'arrive peut-être pas à me projeter. comment moi je peux faire. Si on devrait résumer tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que vous aimeriez leur partager en priorité pour qu'il y ait un vrai changement dans leur vie? Mais quand je dis changement, c'est pas un changement radical, parce que un changement radical, on sait qu'on tient pas sur la durée. Mais commencer par un premier pas vers ce changement qui va entraîner un autre et un autre. Et c'est comme ça qu'après, on crée une hygiène de vie globale. Mais pour commencer déjà par un premier pas, vous conseillerez quoi?
Ça, c'est pas évident comme question parce que, en fait, on l'a beaucoup dit depuis le début, c'est que ce soit la santé mentale ou ta façon de gérer le stress, de manger, c'est hyper personnel et lié à tes expériences aussi de vie. Et moi, je réfléchis en fait à ce truc où je me suis dit, waouh, si tout le monde savait ça, ça changerait la face du monde. Mais bon, je suis pas un génie, quoi, donc je suis pas sûre que ça me soit tombé dessus. Je sais pas, tu dirais quoi?
Je pensais pas que c'était une question si difficile.
Je pense que c'est une question difficile parce que je pense pas qu'il y ait un premier pas qui corresponde à tout le monde. Mais peut-être que... Si on devait peut-être justement revenir à ce qu'on se disait précédemment, ce serait dans un premier temps d'apprendre à s'écouter, tu vois. Apprendre à s'écouter, je pense que ce serait probablement un premier pas qui aiderait pas mal de personnes, tu vois. S'écouter plus profondément et apprendre à se connecter à ses ressentis. Mmh. De quoi est-ce que j'ai besoin et questionner, tu vois. Pourquoi je fais ce truc-là? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça, tu vois? Pourquoi j'ai dit oui à ce truc-là? Ou pourquoi est-ce que je fais ce job que je fais? Pourquoi est-ce que je suis dans cette relation? Sans forcément tout remettre en question, mais questionner nos choix, je pense que c'est une bonne manière de se connecter à la raison d'être de ce qu'on fait, tu vois? Et apprendre à s'écouter, à écouter son corps, écouter ses ressentis, je pense que ce serait... Un premier pas important.
Dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, parce que c'est très intéressant, j'entends aussi la notion de savoir dire non, l'importance de savoir dire non,
ouais.
Qui pour moi influence énormément notre santé mentale, parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où on se force pour la plupart du temps à faire des choses qui ne nous valorisent pas et donc qui entachent cette estime qu'on peut avoir sur soi et donc qui touche à notre bonheur. Savoir dire non, c'est quelque chose qui est très difficile pour certaines personnes. Mais quand on commence à l'expérimenter, on peut en voir les vertus. Je sais que tu accompagnes beaucoup sur la confiance en soi. Et donc, poser ses limites, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup ta vision. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les vertus de savoir dire non? Qu'est-ce que ça peut créer en termes de changement dans la vie des gens?
Pour moi, c'est ça que ça... C'est capital, en fait. Pour moi, c'est capital. Parce que tu peux pas... vivre une vie épanouie et alignée et en même temps dire oui à tout le monde et chercher à plaire à tout le monde. Quand tu cherches à plaire à tout le monde, tu te coupes de toi-même et tu te coupes de tes ressentis, de tes besoins, de ce qui est juste pour toi. Tu vois, ça revient un peu à ce qu'on disait sur ton choix d'acheter ta maison, tu vois. Si t'avais dit non à ton agent immobilier et que t'avais pas pris cette maison, tu te dis non à toi d'une certaine manière, à tes besoins à toi. Tu dis oui à ce que les gens te projettent de ce que tu devrais faire. Et les vertus, pour moi, c'est vraiment le fait de créer une vie qui nous inspire, créer une vie dont on est fier et vivre pour soi. Se rappeler que de toute façon, tout ça, c'est temporaire. Hein. On est là temporairement. Donc, en fait, finalement, comme tu l'as dit, autant faire de cette vie une expérience magnifique. Et si tu vis pour plaire aux autres, pour faire plaisir aux autres, tu passes à côté de ta vie et à un moment donné, tu vas forcément être face à la question fatidique de « Pourquoi j'ai fait tout ça? Et si j'avais fait les choses autrement, qu'est-ce qui se serait passé ?» Donc, apprendre à dire non, c'est la compétence pour moi la plus importante qu'on puisse développer. C'est se reconnecter à soi, c'est s'affirmer, c'est réveiller sa souveraineté, c'est accepter que tu puisses pas plaire à tout le monde et c'est être OK avec le fait que certaines personnes se sentent personnellement attaquées par tes limites. Parce qu'il y en aura, malheureusement, tu vois. Beaucoup même.
Ça nous fait beaucoup rire. Hein,
en fait, c'est ton oui qui m'a fait rire. Le oui,
il était
dans
profond,
la gorge, là.
Il était profond, sincère. Il a raisonné, celui-là.
Donc voilà, pour moi, ouais, dire non, c'est trop important. Et c'est franchement quelque chose que j'apprends encore à faire. Je suis en apprentissage constant sur ce sujet parce que c'est pas évident. Et je pense que tu vois, tu vas dépasser un stade et puis tu vas te rendre compte que bah, en fait, t'as un autre stade à dépasser parce que malgré tout, tu continues peut-être à dire oui ou tu te rends même pas compte qu'à un certain niveau, t'es pas vraiment connecté à tes besoins et à ce qui est juste pour toi. Parce qu'aussi, c'est des habitudes, tu vois. On a tellement l'habitude de dire oui à plein de choses que on se questionne pas vraiment de manière intuitive. Il faut vraiment forcer l'exercice. Mais ouais, pour moi, c'est trop important.
Est-ce qu'il faut pas aussi préciser que savoir dire non, c'est pas non plus un manque de respect envers les autres ?
Complètement, complètement.
Il faut que ce soit très, très clair. Il faut que ce soit hyper important dans la tête des gens parce que faut arrêter. Bon, c'est un sujet que, hein, on sent que il est là. Il faut arrêter à un moment donné de prendre déjà tout personnellement, de se sentir constamment attaqué quand quelqu'un nous dit bah là c'est pas ok, ça n'a rien à voir avec ou contre toi. C'est juste que moi il y a des choses qui sont très factuelles. Et ensuite d'arrêter de penser que c'est une insulte envers les autres, que c'est un manque de respect, parce qu'en fait en voulant dire oui, on ne s'honore pas, on ne se respecte pas soi-même et on ne peut pas donner le meilleur
exactement,
aux gens.
Exactement.
Et ça, ce n'est pas OK. Parce que si tout le monde s'occupait d'abord de soi, c'est-à-dire de cet aspect altruiste, d'accord, pas égoïste, altruiste, en se disant « je suis la priorité pour donner le meilleur aux autres », si tout le monde faisait ça, le monde serait différent. Ça veut dire que tout le monde donnerait le meilleur.
Si tu as quelqu'un en face qui n'est pas capable d'accepter ton nom, de toute façon, c'est que ce n'est pas quelqu'un que tu dois côtoyer dans tous les cas.
Je suis d'accord.
Moi, je sais que mes amis, si je leur dis « Écoutez, on a prévu un week-end, mais là, je peux pas, je suis KO. » C'est ce qui m'est arrivé, je leur ai dit « Je suis KO. Je sais qu'on se voit pas avant le mois de mai, sinon, mais là, je peux pas. » Tous les week-ends, j'ai enchaîné, j'en peux plus. Elles m'ont dit « T'as raison de nous le dire, repose-toi. » Voilà, enfin, il n'y a pas de débat de « Oh, oui. Ça y est, tu viens pas, super. »
Non, mais c'est un non-sujet, en fait.
Ouais, c'est ça. Et en fait, si on a peur de dire non, c'est que peut-être au passé, on a déjà dit non et on a eu la sensation de décevoir la personne en face. Mais il faut bien remettre le truc en place de « c'est pas toi qui as fauté, c'est l'autre en face qui l'a pris personnellement ou qui l'a mal pris et qui te l'a renvoyé à toi. » Mais c'est pas quelque chose à reproduire avec les autres puisque le problème en disant non, c'est pas toi, c'est l'autre comment il le reçoit en face. Donc moi, je sais que j'ai eu ce problème-là, hein, dire non, c'était le bout du monde, vraiment le bout du monde. Pour moi, dire non, c'était la décevoir et si je décevais, j'allais être détestée. Et alors là, si j'étais détestée, mais je n'en dormais pas la nuit, vraiment. Si le monde entier ne m'aimait pas, ça peut faire un peu égocentrique, mais je voulais absolument que personne n'ait jamais de problème avec moi, etc. Tu finis par réaliser que quelqu'un à qui tu dis non, qui te fait comprendre que c'est un problème, ça lui appartient.
Fuyez.
Ça lui appartient. C'est son problème à lui qu'il ne l'accepte pas, qu'il le prenne personnellement, qu'il le prenne comme une attaque, une insulte. Ça m'appartient pas, ça, la façon dont tu le prends. Si moi, je te l'ai dit avec bienveillance, respect, qu'en plus, j'ai justifié mon nom, c'est ton problème.
T'en fais ce que tu veux.
T'en fais ce que tu veux.
Oui.
Si tu prends mal, c'est peut-être qu'on n'est pas fait pour se côtoyer, pour être ensemble. C'est triste à dire, mais...
C'est OK.
Voilà, quelqu'un qui t'aime, il comprend les oui, mais il comprend aussi les non. Normalement, en principe.
C'est trop vrai. Je suis totalement alignée à ça. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est un... T'inquiète.
J'adore le naturel de Laura.
C'est parce que ça va s'entendre. Ça va s'entendre dans tous les cas. Ils vont se dire, mais qui c'est qui fait grincer la table? C'est pas la table, c'est mon nez. Voilà, je suis désolée. Je peux pas me moucher en plein milieu. Donc...
C'était mignon.
Peut-être que si t'avais rien dit, ce serait passé à la trappe. Mais là, maintenant que tu l'as dit, tout le monde va focaliser dessus, vont revenir en arrière pour écouter ton sifflement.
C'est presque à la fin, donc ça compte pas.
Justement, pour le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ou appuyer? Moi, évidemment, c'est ce sujet de poser ses limites. Moi, c'est vrai que depuis que je l'expérimente, ma vie a changé. Et dans le bon sens du terme. Donc, parfois, c'est des changements qui sont douloureux et c'est OK, c'est normal. Mais en fait, le bénéfice est plus important que le coût. Donc, je pense que quand on arrive à trouver un bénéfice supérieur au coût, on est prêt à faire ça, même si ça, c'est pas simple. Mais vous aimeriez dire quoi pour conclure sur ce sujet vaste de santé mentale? Qu'est-ce qui a résonné le plus pour vous?
Franchement, moi, je dirais... Apprenez à vous écouter et à vous respecter. À respecter vos besoins, respecter vos limites. Prenez conscience que ça se fera pas du jour au lendemain, comme ça, en claquant des doigts. Et il n'y a pas de solution magique, entre guillemets. Par contre... Le fait de passer à l'action et de s'entraîner petit à petit à mieux s'écouter, à mieux respecter ses besoins, à se prioriser, sur le long terme, ça aura un impact gigantesque. Mmh. Et l'effet cumulé fait que bah, si tous les jours on s'écoute un tout petit peu plus qu'hier et on passe un tout petit peu plus à l'action et on met un peu plus nos limites, avec le temps, les résultats vont être juste incroyables. Donc, il ne faut pas se mettre de pression en voulant tout faire parfaitement tout de suite. Parce que ça, je pense que c'est un gros problème qu'on peut avoir. Et d'accepter que les choses peuvent prendre du temps, mais c'est en y allant petit à petit et en étant patient avec soi-même qu'on a des résultats juste magnifiques.
Et toi, Laura ?
En vrai, moi, ce qui m'a le plus marqué et ce qui a le plus résonné là, c'est, pendant le podcast, c'est ce truc de responsabilité propre et de l'environnement. Et je pense que la responsabilité propre, on a une influence dessus, mais l'environnement aussi. Tu vois, par exemple, de dire bah, les gens qui n'acceptent pas mon nom, ça dégage. Par contre, ceux qui m'honorent, qui m'écoutent, qui me respectent, ça reste. Et c'est avec ces gens-là que tu vas avoir envie de te confier. Et du coup, tu réunis les deux spectres importants pour que ta santé mentale, au niveau constant, elle soit bonne, en harmonie en fait, avec ton corps, avec toi-même. Donc moi, je dirais ça, c'est faire très attention à l'environnement dans lequel on est, les proches qu'on a, le lieu dans lequel on est, est-ce qu'on s'y sent bien ou pas. Et comme tu disais, en fait, pour compléter, Mariam, s'écouter soi. Je pense que si tu as ces deux éléments-là, tu as tout de réuni pour faire en sorte que ce soit le plus stable possible. Parce que, qu'on se le dise, même avec les meilleurs éléments réunis, parfois la vie fait que... Et c'est aussi OK. Enfin, tu peux te ramasser et tu peux te dire, là, ça va pas du tout... C'est full ok. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui me disent « Oh là là, j'aimerais trop être comme ça et tout. » Je dis « Mais t'as le temps. T'as le temps de trouver les réponses, de te soigner, de comprendre pourquoi ça t'est arrivé. » L'essentiel, c'est de te mettre sur le chemin de la guérison et de mettre des mots dessus parce que faut pas rentrer dans cette phase de déni, etc. Parce que c'est là où ça s'envenime. Moi, je fais un peu l'autruche. Hein. C'est un peu ma technique. Quand il y a un problème, je... sous le tapis. Et peut-être qu'à un moment, quelqu'un passera la spie et ça ira mieux après.
Merci beaucoup, les filles. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Franchement, j'ai adoré ce moment.
Franchement, merci à toutes les deux. C'était trop agréable.
Échange super intéressant. Ouais. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment. Ouais. J'ai pas vu les minutes, les heures passées, je ne sais pas depuis
j'ai plus
temps,
la notion du temps. Moi aussi, aucune idée. Un grand merci. Je vous dis à très bientôt.
À très bientôt.
Bye bye. Bye bye.
Ciao.
Ciao. Muffin Gay. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposer un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur la chaîne YouTube, dans les commentaires, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye.